La marchandisation du temps. Le temps des hommes sera de plus en plus utilisé à des activités marchandes qui remplaceront des services gratuits, volontaires ou forcés. L'agriculture deviendra de plus en plus industrielle. Elle enverra des centaines de millions de travailleurs vers les villes. L'industrie mondiale sera de plus en plus globale, les frontières de plus en plus ouvertes aux capitaux et aux marchandises. Les usines migreront de plus en plus facilement là où le coût global du travail sera le plus bas, c'est-à-dire vers l'Asie de l'Est, puis vers l'Inde. Les services les plus sophistiqués, les centres de recherche et les sièges sociaux des plus grandes firmes se déplaceront dans ceux des pays du Sud où l'anglais est et restera une des langues nationales. Sur chaque marché local, les entreprises n'assureront plus que les études de marché nécessaires à la commercialisation de leurs produits, ainsi que des services après-vente. La vitesse des innovations s'accélérera. Le cycle allant de la création à la production et à la commercialisation des produits alimentaires et des vêtements passera d'un mois à 4 jours. Celui de l'automobile et de l'électroménager, déjà réduit de 5 à 2 ans, sera bientôt de 6 mois. Celui des médicaments passera de 7 à 4 ans. La durée de vie des marques sera, elle aussi, de plus en plus brève. Seuls les mieux installés et les plus mondialisés résisteront à cette noria du neuf. La durée de vie des immeubles et des maisons sera, elle aussi, de plus en plus brève. Les actionnaires des grandes sociétés seront eux-mêmes de plus en plus volatiles, capricieux, déloyaux, indifférents aux exigences à long terme des entreprises dans lesquelles ils investissent, soucieux seulement des avantages immédiats qu'ils peuvent en retirer. Les banquiers exigeront que les entreprises fournissent des comptes à intervalles de plus en plus rapprochés. Les dirigeants seront de plus en plus jugés sur des critères de court terme et ne resteront en poste qu'aussi longtemps qu'ils répondent à ce qu'attend un marché versatile. La compétition entre travailleurs dans l'entreprise et dans la recherche d'un emploi sera de plus en plus sévère. Le savoir deviendra plus encore qu'aujourd'hui un actif majeur, toujours remis en cause par les innovations. La formation initiale restera essentielle. Chacun devra sans cesse se former pour rester employable. La réduction durable de la natalité et l'amélioration continue de l'espérance de vie conduiront à travailler moins longtemps dans l'année, mais plus longtemps dans la vie. L'âge de la retraite s'élèvera jusqu'à 70 ans pour tous ceux dont le travail n'est ni pénible ni dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Les plus âgés serviront de tuteurs, de passeurs, de prescripteurs. L'industrie du mieux-être deviendra une industrie majeure. Il deviendra de plus en plus difficile de distinguer entre travail, consommation, transport, distraction et formation. Les consommateurs joueront un rôle croissant dans la conception des objets, de plus en plus fabriqués sur mesure, en flux tendu. Les consommateurs du cœur et du milieu resteront très endettés, sans que, comme le pensait déjà Tocqueville, cela leur pèse plus qu'une contrainte volontaire limitant leur frénésie de consommation. Les consommateurs resteront les maîtres et leurs intérêts passeront avant ceux des travailleurs. Plus de la moitié des travailleurs changeront de résidence tous les 5 ans, et plus souvent encore d'employeur. Les citadins des villes du Nord financeront de plus en plus leur résidence principale par des crédits hypothécaires aisément transférables. Les urbains vivront de plus en plus loin des centres. Un ménage habitant intramuros en 2007 habitera 8 km plus loin 10 ans plus tard et 40 km plus loin en 2025. De nouveaux métiers apparaîtront pour organiser la logistique de ce nomadisme. La 9e forme continuera aussi de créer les conditions d'une vie urbaine de plus en plus solitaire, dans des appartements de plus en plus exigus, avec des partenaires sexuels et affectifs de plus en plus éphémères. La peur d'être lié, la fuite devant l'attachement, l'indifférence apparente deviennent déjà des formes de séduction. l'apologie de l'individu, du corps, de l'autonomie, de l'individualisme, feront de l'ego, du soi, les valeurs absolues. L'érotisme deviendra un savoir ouvertement revendiqué. Les formes les plus diverses de sexualité seront tolérées, à l'exception de l'inceste, de la pédophilie et de la zoophilie. L'ubiquité nomade et les communautés virtuelles créeront de nouvelles occasions de rencontres, marchandes ou non. La résidence secondaire, héritage des générations antérieures, deviendra l'habitat principal, le seul point fixe des urbains. Le tourisme deviendra quête de silence et de solitude. Se multiplieront les lieux, religieux ou laïcs, de méditation, d'isolement, de retraite, de non-agir. La sédentarité sera l'ultime privilège des enfants qui vivront souvent avec leurs grands-parents dans des lieux stables et protégés où les parents, pour l'essentiel séparés, viendront alternativement passer un moment avec eux. Les transports occuperont un temps croissant. Ils deviendront des lieux de vie, de rencontre, de travail, d'achat, de distraction. Le temps qu'on y passera sera décompté comme temps de travail, de même que se généralisera le travail de nuit et du dimanche. Le voyage deviendra une part majeure de la formation universitaire et professionnelle. Il faudra démontrer sans cesse des qualités de voyageur pour rester employable. Toute ville d'Europe de plus d'un million d'habitants sera reliée au réseau continental de trains à grande vitesse. Plus de 2 milliards de passagers, touristes d'affaires pour la plupart, utiliseront chaque année l'avion. L'avion taxi se développera massivement. À tout instant, plus de 10 millions d'humains seront en l'air. Des véhicules urbains sans pilote, beaucoup moins coûteux que les actuels, faits de matériaux légers, économes en énergie et biodégradables, seront la propriété collective d'abonnés qui les laisseront à d'autres après chaque usage. S'inventera un nouveau droit de propriété, donnant accès dans chaque nouveau lieu de résidence à un logement d'une qualité et d'une taille déterminée, détaché d'un lieu concret. Plus généralement, on passera de l'achat à l'accès. En particulier, la dématérialisation des informations rendra plus facile de passer de la propriété des données à l'usage, permettant l'accès à la culture, à l'éducation et à l'information. Le contrôle de la propriété intellectuelle sera aussi de plus en plus difficile à assurer. Dans tous les secteurs de consommation, des produits à très bas prix seront mis en circulation. Ils permettront de faire entrer les plus pauvres de tout pays dans l'économie de marché et aux classes moyennes de consacrer une part décroissante de leurs revenus à l'achat de produits alimentaires, d'ordinateurs, de voitures, de vêtements, d'équipements ménagers. L'essentiel du revenu des classes moyennes et supérieures sera utilisé pour l'achat de services, éducation, santé, sécurité. Pour les financer, la part du revenu mutualisé augmentera sous forme d'impôts ou de cotisations. De plus en plus de gens préféreront confier la couverture de leurs risques à des compagnies d'assurance privées, de plus en plus puissantes au détriment des États. Les échanges commerciaux, numériques et financiers échapperont de plus en plus aux États, ainsi privés d'une part significative de leurs recettes fiscales. Les administrations publiques seront bouleversées par l'usage des nouveaux moyens de communication, en particulier d'Internet, qui permettront de faire fonctionner les services publics à moindre coût et sur mesure. Pour gérer ce temps marchand, deux industries dominent déjà l'économie mondiale, l'assurance et la distraction. D'une part, pour se protéger des risques, la réponse rationnelle de tout acteur du marché sera, et déjà, de s'assurer, c'est-à-dire de se protéger des aléas du futur. Les compagnies d'assurance et les institutions de couverture de risques des marchés financiers compléteront les régimes de sécurité sociale et deviendront, si elles ne le sont déjà, les premières industries de la planète par leur chiffre d'affaires et par les profits qu'elles réaliseront. Pour les plus pauvres, la micro-assurance sera un instrument essentiel de la réduction de l'insécurité. D'autre part, pour fuir la précarité, chacun voudra se divertir, c'est-à-dire se distancier, se protéger du présent. Les industries de la distraction, tourisme, cinéma, télévision, musique, sport, spectacle vivant, jeux et espaces coopératifs deviendront, si elles ne le sont déjà, les premières industries de la planète par le temps qu'occupera la consommation de leurs produits et de leurs services. Les médias auront une emprise croissante sur la démocratie et sur les choix des citoyens. Les unes et les autres seront aussi prétexte d'activités illégales. Le racket constitue la forme criminelle de l'assurance. Le commerce sexuel et les drogues constituent les formes criminelles de la distraction. Toutes les entreprises, toutes les nations s'organiseront autour de ces deux exigences, protéger et distraire. Se protéger et se distraire des peurs du monde. L'ubiquité nomade. Avant 2030, chacun, sauf les plus pauvres, sera connecté en tout lieu à tous les réseaux d'information par des infrastructures à haut débit, mobiles, HSDPA, WeBro, Wi-Fi, WiMAX et fixe, fibre optique. Chacun sera ainsi en situation d'ubiquité nomade. Cela a déjà commencé. Google vient de mettre à disposition des habitants de la ville californienne où est situé son siège, Mountain View, et de ceux de San Francisco, un accès gratuit et universel à Internet sans fil et à haut débit. En Corée, des villes entières sont maintenant équipées de réseaux de téléphonie mobile HSDPA, 10 fois plus performantes que la 3G, et d'accès à Internet mobile à haut débit, WeBro. Ces infrastructures numériques permettront aussi aux collectivités de mieux gérer la sécurité urbaine, les encombrements dans les transports et la prévention des catastrophes. Cette mise en réseau des membres de la classe créative, dispersée en plusieurs lieux, favorisera la création en commun à distance sans avoir à se réunir dans un même cœur de logiciels, de services, de produits, de production. Des langages permettront d'écrire des programmes accessibles au plus grand nombre et de structurer l'information pour donner accès simultanément aux données et aux sens. Pour permettre de se connecter plus commodément à ces réseaux de création conjointe, les objets nomades deviendront plus légers, plus simples. Le téléphone mobile et l'ordinateur portable fusionneront et seront réduits à la taille d'une montre-bracelet, d'une bague, d'une paire de lunettes ou d'une carte à mémoire, intégrée à des vêtements mieux adaptés aux exigences de mouvement. Un objet nomade universel servira à la fois de téléphone, d'agenda, d'ordinateur, de lecteur de musique, de téléviseur, de chéquier, de carte d'identité, de trousseau de clés. Des ordinateurs à très bas coût, utilisant des technologies ouvertes telles Linux, permettront d'accéder à ces réseaux pour un prix infime. Les moteurs de recherche personnalisés se développeront de plus en plus avec les sites coopératifs, les sites d'échange gratuits de contenu, les sites de conseils, les radios et télévisions nomades. La télévision deviendra un instrument sur mesure et différencié. On regardera beaucoup moins les grands réseaux. Les adolescents passent déjà 3 fois moins de temps que les adultes devant un poste de télévision. Et ils sont déjà 6 fois plus longtemps connectés à Internet. La télévision sera regardée surtout sur les objets nomades et pour les spectacles vivants. Des chaînes de plus en plus spécialisées, personnalisées, sur mesure, se développeront. Les propriétaires de contenu, éditeurs, musiciens, cinéastes, écrivains, journalistes, professeurs, comédiens, informaticiens, designers, couturiers, ne réussiront pas à imposer durablement des brevets sur leurs propriétés, ni des systèmes de cryptage empêchant la circulation gratuite de fichiers musicaux et de films. Les auteurs seront alors rémunérés par les infrastructures numériques, qui recevront pour cela une redevance et des revenus publicitaires. Avant 2030, la plupart des médias papier, en particulier la presse quotidienne, deviendront virtuels. Ils offriront des services de communauté de plus en plus instantanés, de plus en plus coopératifs, de plus en plus sur mesure, sur le modèle américain de MySpace, coréen de Oh My News ou français de AgoraVox. Sous le contrôle de journalistes professionnels, des citoyens apporteront une autre perspective à l'information et au divertissement. Plus subjective, plus passionnée, plus indiscrète, sur des thèmes méconnus ou délaissés. Certains de ces journalistes citoyens acquerront une grande notoriété. Leurs revenus varieront en fonction de la popularité de leurs œuvres. Déjà, certains contributeurs de blogs gagnent plus de 3 000 $ par mois. On assistera à l'ultra-personnalisation des contenus en fonction des besoins et centres d'intérêt de chaque individu. Combinaison de textes, de fichiers audio et vidéo sélectionnés selon ses centres d'intérêt. Les distinctions entre presse, radio, télévision et nouveaux médias seront de moins en moins pertinentes. Les médias devront, pour survivre, accepter cette marche inéluctable vers des médias gratuits, participatifs et ultra-personnalisés. Les livres deviendront aussi accessibles sur des écrans bon marché et aussi fins que du papier, e-paper et e-ink, nouvel objet nomade en forme de rouleau, donnant enfin une réalité commerciale aux livres électroniques. Ils ne remplaceront pas les livres, mais auront d'autres usages pour des œuvres éphémères, sans cesse actualisées et écrites spécialement pour ces nouveaux supports. Avant 2030, de nouvelles œuvres d'art mêleront tout support et tout mode de diffusion. On n'y distinguera plus ce qui relève de la peinture, de la sculpture, du cinéma ou de la littérature. Des livres raconteront des histoires avec des images en 3 dimensions. Des sculptures danseront sur des musiques nouvelles avec les spectateurs. Les jeux deviendront de plus en plus des façons de créer, d'imaginer, d'informer, d'enseigner, de surveiller, d'améliorer l'estime de soi et le sens de la communauté. Des films, passés et futurs, deviendront visibles en 3 dimensions, complétés de simulateurs sensoriels et d'odeurs virtuelles. Il deviendra aussi possible de converser à distance avec un interlocuteur en 3 dimensions, de diffuser en 3 dimensions concerts, représentations théâtrales et sportives, conférences et cours. Les robots domestiques, annoncés depuis si longtemps, se généraliseront dans la vie quotidienne. Ils seront eux aussi constamment connectés au réseau haut débit, en ubiquité nomade. Ils serviront d'assistants à domicile, d'aide aux personnes handicapées ou âgées, aux travailleurs et aux forces de sécurité. Ils seront en particulier des surveilleurs. En Corée, par exemple, l'objectif est d'équiper dès 2015 chaque foyer coréen de tels robots pouvant remplir des fonctions domestiques. Avant 2030 encore, l'ubiquité nomade envahira tous les services précédemment industrialisés. Les emballages des produits alimentaires, les vêtements, les véhicules, les appareils ménagers deviendront eux aussi communicants. Des senseurs seront intégrés dans les matériaux, les moteurs, les machines, les fluides, les ponts, les bâtiments, les barrages, pour les surveiller en permanence et à distance. Produits, machines et personnes seront ainsi munis d'une étiquette d'identification par fréquence radio qui permettra aux entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits, la productivité de leurs usines et de leurs réseaux de distribution. Les consommateurs pourront tout savoir sur l'origine et le parcours des produits depuis les matières premières jusqu'à la date de péremption. Ils pourront être informés dès que le portable d'un enfant passera le portail de l'école. Ils pourront commander l'ouverture des portes d'un domicile, le déclenchement des appareils ménagers, l'achat d'un produit dont le congélateur aura détecté le manque. Les véhicules les plus récents intégreront des détecteurs d'erreurs et évolueront avec l'expérience. Chacun deviendra élève à distance d'une lointaine université, visiteur immobile d'un musée, malade soigné dans l'hôpital d'un autre continent. Chacun étant ainsi connecté dans l'espace et dans le temps, l'ubiquité nomade s'inversera vers 2030 en une hyper-surveillance qui sera, on le verra, la caractéristique de la forme suivante de l'ordre marchand. Le vieillissement du monde. Partout dans le monde, la croissance marchande favorisera l'allongement de la vie. On assiste déjà, avec une intensité plus ou moins grande selon les pays, à une baisse de la natalité et à l'augmentation de l'espérance de vie, d'où un vieillissement général de la population. Si les tendances actuelles se prolongent, l'espérance de vie dans les pays développés dépassera les 90 ans en 2025, puis y approchera le siècle. Par ailleurs, avec la croissance de la liberté, en particulier celle des femmes, la natalité baissera au point de ne plus permettre, dans de nombreux pays, le renouvellement des générations. En Corée, par exemple, le taux de natalité est passé de 5,1 dans les années 1950 à 1,5 en 2000. La natalité baissera même dans les pays musulmans, où elle reste la plus élevée. Elle atteint encore 7 enfants par femme dans certaines régions du Moyen-Orient. En 2025, plus de 10 millions d'Américains auront plus de 85 ans. Le nombre des plus de 65 ans sera passé de 4% en 1900 à 33%. Ils seront alors 45% au Japon, 22% en Chine. En France, ils seront 33%, et le nombre des plus de 85 ans aura doublé dans les 10 prochaines années. Dans certains pays, le vieillissement sera si prononcé que la population décroîtra. En 2025, la population japonaise pourrait avoir baissé de 20 millions, celle de la Russie de 15 millions, celle de l'Allemagne de 10 millions. La population active européenne diminuerait de 30 millions d'ici à 2030. Les femmes, ayant moins d'enfants à charge, échapperont plus facilement à la domination masculine et trouveront mieux leur place dans la société. Ce qui aidera en particulier à faire évoluer l'islam comme ont évolué pour les mêmes raisons les autres religions monothéistes. Les personnes âgées seront politiquement majoritaires. Elles imposeront la priorité au présent, la stabilité des prix et le report des charges sur les générations suivantes. Elles consommeront des produits spécifiques, cosmétiques, diététiques, et des services adaptés, hôpitaux, maisons médicalisées, personnel d'assistance, maisons de retraite. Tous consommeront plus de médicaments et de soins hospitaliers, conduisant à une hausse massive de la part des dépenses de santé et donc d'assurance dans la consommation mondiale. Le poids du financement des retraites par les actifs sera de plus en plus lourd. Aujourd'hui, en Europe, chaque actif finance déjà le quart d'une retraite. En 2050, il en financera plus de la moitié. Pour maintenir le ratio actuel d'actifs par retraité, il faudrait alors accepter d'augmenter soit les impôts, soit la natalité, soit l'immigration. Ceux des pays qui refuseront les étrangers verront leur population s'effondrer. Ceux qui les accepteront verront leur population se transformer. Au sein de l'Union européenne, les personnes venues d'Afrique et leurs descendants pourraient représenter en 2025 jusqu'à 20% de la population. À cette date, 45% de la population de la ville de Bruxelles serait composée de descendants d'immigrés originaires de terres d'islam et d'Afrique. Une telle évolution impliquera d'immenses mouvements de population que les États-Unis seront sans doute mieux préparés que d'autres à affronter ou à accepter. Elle imposera en particulier une extraordinaire croissance des villes. Demain, les villes. C'est à l'intérieur du Sud que les migrations seront les plus massives. Des campagnes vers les villes, de la misère rurale vers la misère urbaine. Aucun pouvoir politique, même dans une dictature comme la Chine, ne réussira à ralentir ces mouvements. Ces mutations viennent de loin. Alors qu'en 1950, il y avait dans le monde 80 villes de plus de 1 million d'habitants, elles seront 550 en 2015. La croissance urbaine va devenir partout phénoménale. En 2007, la moitié de la population du monde vit déjà en ville. En 2015, 24 villes, presque toutes du Sud, dont Sao Paulo, Mexico, Bombay, Shanghai, Rio de Janeiro, Calcutta, Delhi, Séoul, Lagos, Le Caire, compteront plus de 10 millions d'habitants, alors qu'elles ne sont que 16 aujourd'hui. En 2025, la planète comptera 30 villes de plus de 10 millions d'habitants. 7 agglomérations de plus de 20 millions d'habitants. Tokyo et Bombay en rassembleront près de 30 millions. 9 des 12 villes les plus peuplées du monde seront situées au sud. Seules exceptions, Tokyo, New York et Los Angeles. De 2006 à 2025, les villes chinoises devront accueillir l'équivalent de toute la population d'Europe de l'Ouest. En 2035, la population urbaine du Sud aura pratiquement doublé pour atteindre 4 milliards. En 2050, 1 milliard d'habitants vivront dans 50 villes d'Asie, chacune comptant plus de 20 millions d'habitants, voire pour certaines, plus de 30 millions. Il faudra donc tripler ou quadrupler les infrastructures urbaines en 30 ans, ce qui se révélera, dans la plupart des cas, pratiquement impossible. Quelques villes réussiront à devenir vivables. De nouveaux produits, par exemple du ciment bon marché, et des techniques nouvelles de construction et de microfinancement du logement, permettront de transformer certains bidonvilles en marchés très rentables pour les entreprises qui sauront s'en saisir. À moins d'imaginer que les évolutions urbaines soient moins gigantesques que ne l'indiquent ces projections linéaires, et à moins d'espérer qu'on assiste à un repli vers les villes moyennes, ces grandes cités ne seront, pour l'essentiel, que des juxtapositions de maisons précaires, dépourvues de voiries, d'assainissement, de police, d'hôpitaux, cernant quelques quartiers riches transformés en bunkers et protégés par des mercenaires. Les mafias y contrôleront d'immenses zones de non-droit, comme c'est déjà le cas, entre autres à Rio, Lagos, Kinshasa ou Manille. D'anciens ruraux seront, avec quelques membres des classes favorisées, les principaux animateurs de nouveaux mouvements sociaux et politiques, réclamant des changements très concrets dans la vie des gens. C'est d'eux, et non plus des ouvriers, des employés ou des professeurs, que dépendront les grands bouillonnements économiques, culturels, politiques et militaires du futur. Ils seront les moteurs de l'histoire, et en particulier de la deuxième et de la troisième vague de l'avenir, dont il sera question plus loin. Pour fuir ces enfers, beaucoup se déplaceront, dans les 20 prochaines années, vers d'autres pays du Sud, à la recherche de climats plus cléments, d'espaces plus vastes, de villes plus sûres ou plus proches du Nord. Des masses chinoises iront ainsi de Chine vers la Sibérie. Déjà, Vladivostok est, dans une large mesure, une ville économiquement, humainement et culturellement chinoise. De même, plus de la moitié de la population de Khabarovsk, ville de Russie située sur le fleuve Amour, est originaire de l'autre côté du fleuve. Alors que la province chinoise de Heilongjiang, à la frontière de la Sibérie, compte autant d'habitants que l'Argentine, sur un territoire aussi exigu que celui de la Suède, 70% du territoire russe se dépeuple et des terres agricoles très fertiles y sont abandonnées. Pour les repeupler, les Chinois sont très recherchés. En Oural, les élus de Sverdlovsk viennent d'inviter des paysans chinois à cultiver 100 000 hectares laissés à l'abandon. Ce flux augmentera avec la multiplication des mariages russo-chinois. Une masse considérable de Chinois envahira peu à peu la Russie. Au total, en 2025, les travailleurs étrangers en Russie seront au moins 15 millions, soit 20% de la population active russe. Les Slaves commenceront à revoir poindre l'immémoriale menace des invasions mongoles. À la même époque, c'est-à-dire vers 2020, d'autres mouvements massifs iront de l'Afrique centrale vers l'Afrique australe ou vers l'Afrique du Nord, de l'Indonésie vers la Malaisie, de la Malaisie vers la Thaïlande, du Bangladesh vers les pays du Golfe, de l'Irak vers la Turquie, du Guatemala vers le Mexique. Pour beaucoup d'immigrants, ces déplacements ne seront qu'une façon d'approcher les pays du Nord. Des masses, de plus en plus nombreuses, se précipiteront aux portes de l'Occident. Ils sont déjà des centaines de milliers tous les mois. Ils seront des millions, puis des dizaines de millions. Et pas seulement parmi les plus défavorisés. Toutes les élites du Sud partiront au Nord. Leurs principaux points de passage seront les frontières russo-polonaises, ibéro-marocaines, turco-grecques, turco-bulgares, italo-libyennes et mexico-américaines. Les États-Unis, continueront d'être le pays le plus recherché par les émigrants. En 2006, 1,5 million d'étrangers s'installent chaque année aux États-Unis. 600 000 seulement le font légalement. 12 millions de personnes, soit le tiers des immigrés en Amérique, y sont entrées illégalement. La moitié d'entre elles viennent du Mexique et le tiers d'Amérique centrale. Un nombre croissant de gens tenteront leur chance au tirage au sort, décidant l'attribution de 50 000 visas américains. Il y a déjà 8 millions de candidats, dont 1,5 million originaires du Moyen-Orient. Dans 20 ans, les populations hispaniques et afro-américaines seront presque majoritaires aux États-Unis. Leurs élites et celles venues d'Asie renforceront la force de l'Amérique. Si les tendances actuelles se prolongent, la population américaine passera de 281 millions en 2000 à 350 millions en 2025. Et cet afflux démographique expliquera à lui seul le prolongement de la croissance dans le cœur de la neuvième forme. Les pays d'Europe du Sud, après avoir été des terres d'émigration, deviendront eux aussi des terres d'accueil. Ils retrouveront du dynamisme, de la croissance et des moyens de financer leur retraite. D'autres pays d'Europe, comme la France, tenteront de refuser ces immigrants venus d'Europe de l'Est et d'Afrique. Certains, comme la France encore, comprendront un peu plus tard qu'un afflux de population bien maîtrisé et intégré est la condition de leur propre survie. La Grande-Bretagne deviendra elle aussi une terre d'accueil majeure, en particulier pour les ressortissants des pays d'Europe centrale. Ces derniers accueilleront de leur côté des travailleurs ukrainiens, eux-mêmes remplacés par des Russes, eux-mêmes remplacés par de vastes populations chinoises. Au total, l'afflux de travailleurs immigrés dans les pays développés rendra plus facile le financement des retraites, mais pèsera sur les salaires des classes moyennes. Par ailleurs, de plus en plus de gens passeront d'un pays du Nord à un autre pays du Nord. Ils seront bientôt plus de 10 millions à changer de pays chaque année. Certains le feront pour des raisons professionnelles et renforceront largement, comme par le passé, leur nation d'origine dont ils resteront les représentants économiques, financiers, industriels et culturels. D'autres, de plus en plus nombreux, choisiront de partir justement pour ne plus avoir à dépendre d'un pays dont ils rejetteront la fiscalité, la législation, voire la culture. Aussi, pour disparaître totalement, changer d'identité, vivre une autre vie, le monde sera ainsi de plus en plus rempli d'anonymes volontaires. Il sera comme un carnaval où chacun, ultime liberté, se sera choisi une nouvelle identité. Enfin, des dizaines de millions de retraités iront vivre, à temps partiel ou définitivement, dans des pays au climat plus clément et au coût de la vie moins élevé, en particulier en Afrique du Nord. Des villes entières se construiront pour ces nouveaux venus, attirant dans ces pays des hôpitaux, des médecins, des architectes, des avocats qui s'y déplaceront avec leurs clients. Cela durera aussi longtemps que les populations autochtones accepteront ces nouveaux résidents. Au total, dans 25 ans, environ 50 millions de personnes s'exileront tous les ans. Près de 1 milliard d'individus vivront ailleurs que dans leur pays natal ou que dans le pays natal de leurs parents.